Bonjour et bienvenue sur Campus Max Radio Campus Po 98.8 sur vos radios. Nous retrouvons ce jeudi 18 avril avec moi-même Benoît pour aujourd'hui faire un tour de l'actualité internationale et locale. Commençons par voir tout d'abord ce qu'il se passe dans le monde. Gratuit lors de son lancement, ce jeu s'est tout de même très bien vendu par la suite. Pas moins d'un million d'exemplaires écoulés, les gens continuent de jouer à ce jeu d'horreur coopératif. Il s'agit en effet du jeu Content Warning. En effet, l'éditeur Landfall Games a révélé que le jeu a atteint la barre du million d'exemplaires vendus sur Steam. Initialement offert gratuitement pendant ses premières 24 heures, ce jeu de survie et d'horreur coopératif dans la lignée de Lethal Company a suscité un engouement massif avec plus de 200 000 joueurs simultanés sur la plateforme de Valve lors de cette promotion. La stratégie de lancement s'est avérée fructueuse, comme en témoigne l'annonce de Landfall Games sur X, anciennement Twitter, affirmant que Content Warning a dépassé le cap du million d'exemplaires vendus. En plus des 6,6 millions de téléchargements gratuits, l'éditeur a exprimé sa gratitude envers les joueurs pour leur amour envers le jeu d'horreur. Ce succès remarquable pour Content Warning, développé par une petite équipe et lancé le 1er avril, selon la tradition de Landfall, est une prouesse particulièrement notable. Cependant, quelques questions quant à la fiabilité et la viabilité de Content Warning dans le temps restant suspense. Que se passera-t-il lorsque la hype sera passée? Il est encore trop tôt pour répondre. Cela ne fait encore que 3 semaines que le jeu est sorti, mais celui-ci ne se laisse pas mourir. Oscillant entre 5000 et 30 000 joueurs sur Steam, beaucoup de joueurs continuent d'apprécier le jeu coopératif. À titre de comparaison, les Lethal Company, il reste au-dessus, dépassant les 50 000 joueurs quelquefois dans les 7 derniers jours. Est-ce que les mods permettront à Content Warning de dépasser cet autre jeu d'horreur coopératif? C'est une possibilité qu'il ne faut pas laisser de côté. Voici à présent ce qu'il se passe en France. Prix négatif de l'électricité, la France contrainte d'arrêter 5 réacteurs nucléaires. EDF a pris la décision d'arrêter 5 réacteurs nucléaires le week-end dernier, en raison d'une forte baisse de la demande d'électricité, faisant chuter les prix. Une aberration qui montre que le réseau n'est pas toujours en mesure de valoriser la production excédentaire des centrales bas carbone, nucléaires, éoliens et solaires. La France tourne la page de la crise de l'énergie, nos réserves hydrauliques se portent bien et notre parc nucléaire va mieux. Après les arrêts inopinés de nombreux réacteurs et les retards pris dans les opérations et maintenance avec la crise sanitaire, pour preuve, le prix de l'électricité sur le marché en gros est en chute libre. Cette situation s'explique également par le développement des énergies renouvelables qui permet de bénéficier d'un afflux de production d'électricité dès que le soleil est radieux, comme c'est le cas en ce début de printemps. Mais cette hausse de la production d'électricité issue des énergies renouvelables combinée à une baisse importante de la demande peut aussi perturber le réseau, lequel doit en permanence conserver un équilibre parfait entre l'offre et la demande. Ce week-end, les températures anormalement élevées ont anéanti les besoins de chauffage. La consommation nationale a chuté à des niveaux comparables à un dimanche en juillet. En parallèle, les parcs solaires ont tourné à haut régime, atteignant un pic à 10,7 GW dimanche à 13h15. En conséquence, le prix de l'électricité sur le marché spot en France est resté négatif, plongeant à un minimum de moins 39,89 euros par kilowattheure. Pour maintenir la balance à l'équilibre entre l'offre et la demande, EDF a donc dû arrêter 5 réacteurs nucléaires. Les sites concernés sont ceux de Dampierre 4, Golfech 2 et Triskana 1 et 3. Ont tous été déconnectés du réseau samedi matin pour être reconnectés dimanche soir, à l'exception du réacteur Triskana 1 remis en route mardi soir. Au total, 5,4 gigawattheures ont été concernés par cette coupure. On peut toutefois s'interroger sur ces arrêts qui risquent de se renouveler à mesure que le déploiement des énergies renouvelables s'accélère. Le réseau ne semble pas encore tout à fait prêt à accueillir ces nouveaux modes de production décentralisés dont la production dépend des conditions climatiques et n'est pas corrélée aux besoins. Pourtant, déconnecter des réacteurs nucléaires qui produisent une électricité décarbonée apparaît comme un gâchis, alors que même que ces arrêts sont coûteux. Il est surprenant que les solutions ne soit pas déployé pour valoriser le surplus de production électrique dans le contexte actuel de décarbonation. Faute de demande, des moyens de production bas carbone sont aujourd'hui bridés alors qu'ils pourraient se substituer aux énergies fossiles. Une des pistes pour soutenir la demande est le déploiement du véhicule électrique. Il constitue une des solutions pour gérer le surplus de production puisque la recharge est un moyen de stockage. Pour l'heure, le prix élevé à l'achat et les difficultés d'accès à la recharge privée dans certaines zones du territoire constituent un frein pour beaucoup d'automobiles automobilistes. Il conviendrait également d'accélérer la décarbonation de l'industrie pour augmenter son électrification grâce aux systèmes de déstockage de grande ampleur tels que les STEP et les mégabatteries. Il pourrait bénéficier en semaine d'une électricité à bas coût stockée les week-ends et de faibles demandes, par exemple. Par ailleurs, le recours à l'hydrogène constitue aussi une autre solution qui permettrait de valoriser un excédent de production et d'éviter ainsi les arrêts de tranches de réacteurs nucléaires. La filière est en plein développement, notamment avec la construction d'une prochaine usine d'hydrogène vert qui devrait voir le jour au Havre en 2028 avec le soutien financier de l'État. Enfin, le surplus de production électrique devrait pouvoir faire l'objet d'un stockage à très grande échelle. Pour cela, des moyens de stockage massifs devraient être exploités rapidement. Dans certains pays, ont déjà pris les devants en investissant dans les batteries et les stations de transfert d'énergie par pompage turbinage, ce n'est pas le cas de la France. Aucun des grands scénarios établis pour l'avenir du mix électrique, que ce soit par l'ADME ou gestionnaire de réseau RTE, ne considère le stockage comme une pièce indispensable à la transition énergétique. Pourtant, le stockage participe à rendre le réseau électrique plus flexible. Michelin met en place un salaire décent pour tous ses salariés dans le monde. Le fabricant de pneus Michelin a annoncé mercredi mettre en place pour ses 132 000 salariés mondiaux un salaire décent permettant de subvenir aux besoins essentiels d'une famille de 4 personnes. En moyenne, il représenterait 1,5 à 3 fois le salaire minimum du pays concerné, France incluse. Loin de tenter d'effacer l'impact de l'inflation, Michelin veut avant tout être un employeur éthique. Le géant français des pneus a annoncé mercredi mettre en place pour ses 132 000 salariés au niveau mondial un salaire décent, supérieur au salaire minimum national et un socle de protection sociale universelle. En moyenne, le salaire décent représente entre 5 fois et 3 fois le salaire minimum, a précisé l'AFP Florial Vaiella, directrice de la rémunération du groupe. La notion de salaire décent se réfère au niveau living wage, réfléchi par le Pacte mondial des Nations Unies. Il consiste en un niveau de rémunération suffisant pour subvenir aux besoins essentiels d'une famille de 4 personnes. En France, déjà aujourd'hui, aucun salarié de Michelin n'est payé au SMIC, le groupe estimant son niveau de 1 766 € en brut mensuel insuffisant. Son initiative va en contre-courant de la tendance générale, y compris en France, où, du fait de son augmentation, le SMIC devient un niveau de rémunération d'une part croissante. Des salaires du secteur privé non agricole, 17,3% étaient au SMIC en 2023 contre 12% en 2021. Le salaire décent doit pouvoir couvrir les besoins essentiels d'une famille de 4 personnes, que ce soit en alimentation, en transport, en éducation, en frais de santé, l'achat de biens de consommation et permettre une épargne de précaution. Vous consacrez du temps à vous développer et à développer l'entreprise et en contrepartie, nous, on vous donne les moyens au minimum pour une famille de 4 individus, 2 parents et 2 enfants, qu'un seul salaire permette d'envisager le logement, la nourriture, mais aussi le loisir, peu d'épargne, etc., a déclaré l'AFP Florent Megjo, PDG du groupe Michelin. En France, le niveau du salaire décent de Michelin serait ainsi de 39,638 € brut annuel, à Paris et de 25,356 € à Clermont-Ferrand, le siège de Michelin, contre 21 203 € pour le SMIC. Au Brésil, il atteindrait les 37,347 €, soit plus le double du salaire minimum qui est à 16 944. Et en Chine, 69 312 yuan à comparer à un salaire minimum de 29,40 yuan. D'ici fin 2024, Michelin prévoit aussi de mettre en place le niveau mondial d'un socle de protection sociale universelle incluant une couverture santé des salariés et leurs enfants, un congé maternité de 14 semaines minimum et un congé paternité de 4 semaines rémunéré à 100%. Ce socle inclut également une assurance d'essai avec le versement d'un capital pendant au moins d'un an et une rente d'éducation des enfants, quelle que soit l'ancienneté du salarié. C'est la fin de ce Campus Mag, j'espère qu'il vous aura plu et que vous avez passé un agréable moment. Nous nous retrouverons prochainement pour de nouvelles émissions. En attendant, vous pouvez réécouter ce podcast ainsi que les précédents sur radiocampuspo.fr et vous pouvez aller sur Instagram pour suivre sur Campus Po et Campus Mag. On vous y attend nombreux et nombreuses. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.